Femina.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
Parole de femme.
Mariam Ouedraogo, vous êtes journaliste burkinabé, vous travaillez pour le journal Sidoya. Vous avez remporté le prix Bayeux du correspondant de guerre en France et quelques jours après, vous avez également remporté le prix Marie Soleil Frère au Burkina Faso. Pourriez-vous nous donner votre réaction par rapport à ces deux prix ?
En réalité, ça fait trois. Il y a Bayeux et il y a le prix dans la catégorie presse écrite pour Marie Soleil Frère. Et il y a le grand prix de la meilleure journaliste burkinabé, prix Marie Soleil Frère. C'est avec joie qu'on accueille de telles récompenses.
Vous avez rencontré des femmes donc victimes des groupes armés, notamment victimes de viols. Et donc le prix Bayeux, vous l'avez remporté pour un article que vous avez écrit donc sur ces femmes déplacées. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ces femmes ?
Oui, l'article a remporté le premier prix dans la catégorie presse écrite de Bayeux et intitulé Axe d'Ablo Kaya, la route de l'enfer des femmes déplacées internes. Donc c'est un article qui revient un peu sur les calvaires que les femmes déplacées internes ont vécu pendant leur traversée vers Kaya et longue de 85 km. Donc c'est un peu revenu sur la souffrance et que les terroristes ont infligée et à ces femmes-là, donc pendant leur fuite pour rejoindre Kaya, chef-lieu de la région du Nord à une centaine de kilomètres de la capitale burkinabé, étant dans les mains des terroristes, elles ont été fouettées et dépouillées de tout ce qu'elles possédaient comme bien, les jeunes filles ainsi que les femmes.
Alors, est-ce qu'il vous a été difficile de les approcher ou en tout cas d'arriver à ce qu'elles se confient à vous sur ce qu'elles ont vécu ?
J'avais déjà des contacts parce que bien avant cet article-là, j'avais déjà réalisé des articles dans la même zone sur la prostitution des femmes déplacées internes. Elles étaient obligées de se vendre entre griffes pour pouvoir se nourrir. Et également, j'avais fait un autre article sur les exactions des groupes armés terroristes dont les individus armés non identifiés violent les femmes à mort. Ce qui a été dur, c'est le face-à-face, d'être en face de ces femmes-là et matérialiser qui racontent un peu leur calvaire.
Est-ce que dans les récits de ces dames et de ces filles, il y a des éléments que vous avez préféré ne pas mettre en lumière par respect pour elles ?
Oui, il le fallait, parce que si je donnais certains détails, on allait reconnaître ces femmes-là parce que souvent il y a eu des situations où tout le village était au courant. Donc si je donnais un peu des détails, on allait savoir automatiquement qui étaient ces femmes. Il y a beaucoup de situations par précaution pour ne pas exposer davantage ces femmes-là. C'est réservé d'un certain nombre de détails assez choquants. Et si vous avez vu dans l'article, on était obligé d'utiliser aussi par moment des caricatures. Sinon, on a les images de certaines femmes, mais on a voulu les protéger en illustrant la scène par des caricatures.
Mariam Ouedraogo, vous voulez nous dire un mot au passage sur votre caricaturiste parce qu'il est formidable.
Oui, il est très formidable. Je l'ai connu en 2019 et je l'ai sollicité pour un premier article sur les larmes des veuves des FDS. Et là aussi, j'avais eu des photos, mais bon, je n'ai pas voulu aussi exposer ces œuvres-là. Donc, quand j'ai décidé de ne pas utiliser les vraies images, c'est juste... J'ai décrit ce que je voulais fait ressortir vraiment ce que j'ai décrit, j'ai expliqué mot par mot et comment je voulais voir les choses et puis la suite vraiment relater les choses.
C'est Main de Dieu, c'est ça, son nom d'artiste?
Oui, c'est vraiment une touche divine. Il fallait cette main-là pour mieux illustrer la situation.
Et dans les femmes que vous avez rencontrées, les femmes et les filles qui ont été victimes de viol, donc c'est ce qui vous a valu votre prix, hein, Marie-Soleil Frère, également, là, est-ce que ces femmes ont eu un peu de difficulté à vous raconter ce qu'elles ont vécu, hein?
Oui, c'est un peu la suite, parce que l'article sur l'acte d'Ablo, c'était le premier, le deuxième, c'était victime de viol, de théorie, et de grossesse et de bébés lourds à porter. Il fallait qu'on s'éloigne de leur site ou de leur localité pour éviter les regards des autres, des proches ou des connaissances. Et la difficulté est que par moment, bon, il y avait des silences qui en disent long sur ce qu'elles ont vécu. Et souvent, c'est des entretiens entrecoupés de larmes. Souvent, on est obligé de pleurer ensemble parce que c'était tellement fort. C'est comme si elle me transmettait les émotions-là. Donc, on était par moment obligé de faire un long silence. Et chacun essaie de se ressaisir. Et ensuite, on reprend. Et par moment, on ironise un peu en rigolant. Et après, bon, on jouait les psychologues un peu. C'était des moments vraiment pleins d'émotions et vraiment inoubliables. Je verrai toujours ces femmes, les regards larmoyants, les têtes baissées par moments. C'était ça.
Mariam Ouedraogo, vous mettez en lumière aussi un problème assez tabou finalement, c'est le fait que ces femmes et ces filles, hein, celles qui tombent enceintes, ne souhaitent pas avoir ce bébé et il n'est pas facile pour elles de le dire.
Naturellement, c'est difficile d'abord de dire que j'ai été violée par un terroriste et ensuite de dire que je suis enceinte d'un terroriste. Donc c'est un drame silencieux parce que c'est un sujet tabou, sensible. Voilà pourquoi beaucoup veulent se débarrasser de cette grossesse-là, mais dans la discrétion. Mais malheureusement, le plus souvent, et dans les zones, il n'y a plus l'administration, les services de santé ne sont plus présents. Et le temps d'arriver dans les sites d'accueil, là, elles ont largement dépassé les 14 semaines éligibles pour bénéficier d'un avortement sécurisé.
Mariam Ouedraogo, donc vous êtes témoin de ce que beaucoup de personnes, à commencer par les femmes et les enfants, hein, subissent dans certaines régions du Burkina Faso. Que peut-on faire pour que ce genre de situation, malgré la violence armée, pour que ces femmes ne soient plus victimes de cette même manière-là?
Bon, pour ce qui est de la protection, c'est on est en guerre, donc on met l'accent sur la lutte armée et les décès, le nombre de décès, le nombre de personnes déplacées internes, on ne nous dit jamais combien de femmes ont été violées, combien de femmes on a récupérées dans les mains de ces terroristes, combien de femmes se trouvent actuellement entre leurs mains. Donc pour ce qui est de la protection, c'est un peu difficile dans les zones d'accueil parce que ces zones sont déjà trop infectées par ces individus armés-là. Donc, c'est difficile de mener des actions sur ces terrains-là. Pour éviter tout cela, il faut arriver à mettre fin à ce terrorisme-là.
Thank you. Mariam Ouédraogo, il y a un autre mal aussi, hein, dont on ne parle pas finalement, mais qui ressort dans votre travail. C'est le regard de la société. Vous venez de le dire, c'est un sujet tabou. Ces femmes se cachent. Et on le voit dans vos articles, vous l'avez dit, on ne peut pas montrer les femmes. On fait des caricatures à la place. Les femmes que l'on voit, elles ont le visage masqué. C'est par rapport au regard des autres, justement. Mais ces femmes-là sont des victimes. Alors que faire dans la société aussi pour que ces femmes-là puissent être vues à visage découvert et que l'on puisse vraiment les assister, mais je veux dire la société entière, et non pas les stigmatiser?
C'est peut-être mettre l'accent sur la société, nos communautés et surtout les hommes, passer par les leaders religieux et coutumiers pour que ces gens-là comprennent que ce sont les conséquences des guerres, des conflits. Quand il y a des guerres, il y a des exactions et les viols font partie de ces exactions-là. C'est amener les sociétés à les comprendre, à accepter ces femmes parce qu'elles n'ont pas voulu. Ils n'ont pas à se réjouir du fait que leurs femmes, leurs filles et leurs tantes sont revenues en vie après avoir passé de sales moments aux mains de ces individus armés. Si on l'accepte, on se donne maintenant le moyen d'accompagner la personne. Parce qu'on a vu là-dessus que j'ai un autre article où je parle de tentatives de suicide. Il y en a, pour ne pas supporter le regard, ont essayé de se tuer. Également, il y en a qui ont été répudiés par leur communauté, par leurs époux, et des enfants même ont été retirés. Donc, plutôt mettre l'accent sur les leaders religieux et coutumiers, parce que souvent, on indexe surtout la coutume, et pour un peu bannir ces femmes-là, ces survivantes là. Donc c'est peut-être d'abord vraiment passer par ces leaders là et les amener à toucher le maximum de population en les acceptant, en les accompagnant pour qu'elles puissent se retrouver, pour qu'elles puissent se reconstruire et s'intégrer dans leur propre société.
Mariam Ouédraogo, je rappelle que vous êtes journaliste burkinabé. Merci beaucoup vraiment pour votre travail, pour toutes ces précisions que vous apportez, n'est-ce pas, sur la situation dans votre pays, le Burkina Faso, les femmes victimes des violences, donc des terroristes armés. On vous dit à très bientôt.
Merci à vous.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Maïmouna Traoré, vous êtes journaliste burkinabé, vous travaillez pour la RTB, vous avez remporté le prix Marie-Soleil Frère dans la catégorie des reportages vidéo pour votre reportage La drogue à l'école, alerte rouge. Dans un premier temps, votre réaction donc sur ce prix?
Oui, j'ai été vraiment émue et très honorée de remporter ce prix qui nous encourage à vraiment persévérer, aller de l'avant, à produire des œuvres vraiment journalistiques, de grands reportages. Et vraiment, c'est un encouragement pour moi et vraiment un défi lancé parce qu'il faut faire mieux pour les prochaines fois.
Votre reportage est excellent, il fait 26 minutes, on voit tous ces jeunes qui sont victimes de la drogue, certains sont très jeunes, ils ont à peine 12 ans. Comment avez-vous fait pour les approcher?
Ça n'a pas été facile de les approcher parce que ce sont tous des jeunes. Leurs parents ne sont pas au courant de leur situation, donc ils se cachent un peu. Mais je suis passée par des associations de lutte contre la drogue en milieu scolaire, des associations qui accompagnent des jeunes. Et c'est grâce à eux que j'ai pu rentrer en contact avec ces jeunes-là qui, au début, ne me faisaient pas confiance. Donc, ils ne voulaient pas vraiment exposer leur situation, ils ne voulaient pas s'exprimer. Mais au fur et à mesure qu'on échangeait, ils ont eu confiance en moi et ils se sont confiés. Ce sont des jeunes, il faut le dire, qui se cherchent vraiment dans cette situation, ils veulent vraiment s'en sortir, mais c'est un peu compliqué. Ils sont dans une addiction et ils souffrent vraiment. Donc, c'était l'occasion pour eux, ils l'ont dit, de témoigner pour vraiment sensibiliser d'autres jeunes. Ils voulaient parler à leurs camarades de classe, les jeunes du groupe Kina et partout ailleurs, pour qu'ils ne tombent pas dans la même situation qu'eux. Ce sont des jeunes qui ont besoin de parler, donc ils ont saisi l'occasion vraiment de s'exprimer, demander de l'aide, et c'est ainsi que j'ai pu vraiment réaliser ce reportage.
Alors, Maïmouna Traoré, on voit en effet dans votre reportage, hein, comme vous venez de le dire, que ces jeunes sont vraiment dans une grande détresse. Ils veulent s'en sortir. Vous avez interviewé certains responsables de structures qui sont là pour les aider également. Mais on se demande en fait quelles sont les mesures réellement concrètes qui sont prises pour les aider à 100%.
Ce sont des associations qui font des sensibilisations. Par exemple, il y a un responsable d'une association. Lui, son travail, c'est essayer de les coacher, de voir comment ils peuvent arrêter de fumer. Lui, il les suit un peu le matin. Bon, si tu prenais, par exemple, 3 doses dans la journée, lui, son rôle, c'est de l'amener à prendre 2 et petit à petit pour qu'il arrive à 1 et à la fin, vraiment, d'arrêter de fumer. Et rien qu'avant-hier, j'étais avec lui. Il m'a dit qu'il y a un qui est arrivé à arrêter de fumer et il a eu le BPC. Il a parlé dans le document. Il a eu le BPC cette année. Il était vraiment content. Les autres aussi sont en train d'arriver petit à petit à arrêter. Mais il m'a dit qu'il n'est pas du tout facile. Sinon, bon, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Dans les établissements aussi, bon, il y a des programmes, il y a des modules qui sont élaborés pour ça. Il y a le Comité national de lutte contre la drogue aussi qui mène des actions, il y a des associations, beaucoup de structures qui le font vraiment pour accompagner, mais c'est vraiment la sensibilisation et puis le suivi, comme je l'ai dit.
Maïmouna Traoré, vous avez réalisé en effet ce reportage en 2021. Et alors depuis, est-ce que les autorités ont réagi, par exemple, d'autant plus que vous avez donc remporté ce prix? Est-ce que cela veut dire qu'après votre reportage, il y aurait eu éventuellement des mesures spéciales prises par les autorités?
Pas de mesures spéciales en tant que telles, mais ils continuent dans la sensibilisation. Et il y a un qui me dit, lui, il part même souvent dans les écoles pour des séances de sensibilisation à l'endroit des scolaires. Et le document, mon reportage, a été récupéré par une association qui veut l'utiliser comme outil de sensibilisation. Voilà, il y a des parents aussi qui m'appellent, pour le dire, hein. Il y a beaucoup qui m'appellent l'addictologue parce que depuis que j'ai fait le reportage, à chaque fois que j'ai l'occasion, je parle aux jeunes, je parle aux jeunes de mon quartier, des gens m'appellent pour vraiment demander qu'est-ce qu'il faut faire. J'essaie un peu à ma manière de faire ce que je peux.
Donc du coup, ça a éveillé un petit peu les consciences des parents qui maintenant seraient prêts finalement à prévenir cela?
Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une partie où il y a un spécialiste qui parle des signes d'alerte. Donc, cette partie a vraiment retenu l'attention de beaucoup de parents qui se sont rendus compte qu'à partir de ces signes-là, que leurs enfants prenaient la drogue, mais ils n'étaient pas au courant. C'est à cette prise de conscience des parents et ils cherchent vraiment à comprendre et à aider leurs enfants qui sont déjà dans la situation. Donc, le reportage a vraiment participé à cette sensibilisation-là sur la prise des stupéfiants par les élèves. La partie signe d'alerte a vraiment intéressé beaucoup de parents.
Dans le reportage aussi, hein, vous parlez de nombreux jeunes finalement qui, une fois qu'ils sont tombés dans la drogue, ils quittent également l'école. Donc là, il s'agit de cas de réinsertion potentielle. Est-ce qu'il y a des organismes aussi pour vraiment parvenir à récupérer ces jeunes et à les réinsérer, voire à leur faire reprendre l'école?
Oui, il y a cette structure-là. Par exemple, il y a Rêve Plus à Bobo qui fait ce travail. J'ai échangé avec eux. Ils essaient d'accompagner les enfants pour qu'ils puissent reprendre l'école. Il y a beaucoup qui ont repris l'école grâce à leurs actions. Et c'est là que j'ai dit à un qui vient d'avoir le BEPC, il a été accompagné par cette structure-là.
Donc lui, il avait quitté l'école?
Oui, il avait abandonné, il a fait une ou deux années sans aller à l'école. Il a pris conscience, il a dit, il sort le matin, c'est par rapport à ce qu'il est allé à l'école, mais il est quelque part dans la nature, je dirais, en train de prendre la drogue avec ses camarades jusqu'au soir avant de rentrer. Ses parents croient qu'il est à l'école, les enseignants croient qu'il est à la maison. Finalement, on ne sait pas où il est, qui a vraiment joué, si sa scolarité. Et après, il s'est rendu compte, il a dit, ses camarades de classe sont un peu moins en terminale et lui, il n'a pas encore le BPC. Donc, il y a ce déclic-là qui a été créé en lui et il a voulu reprendre l'école et il a demandé l'accompagnement de l'association-là. Il a vraiment aidé et puis il a eu le BPC. Il est vraiment très content.
Maïmouna Traoré, vous avez aussi interviewé des filles, hein. C'est peut-être une majorité de garçons, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ces jeunes filles qui sont, elles aussi, vraiment très très jeunes à tomber dans la drogue?
Oui, c'est la même situation que les garçons. On dit, oui, tu n'es pas une fille, si tu es une vraie fille, là, prends ça et puis tu te crois ragaillardie en prenant la drogue, c'est ce qu'elles ont dit. Et d'autres aussi, ce sont des situations de famille qui les ont amenées à prendre la drogue. Il y a une qui dit, elle, c'est le décès de sa maman qui l'a amenée dans cette situation. Elle passait tout son temps à pleurer. Et il y a une camarade de classe qui lui a dit, mais il y a quelque chose, si tu prends, tu vas arrêter de pleurer. Et elle lui a donné la drogue, elle a pris. Donc, petit à petit, elle a été plongée dans cette addiction-là et finalement, elle a été obligée d'abandonner l'école. Et c'est une qui est devenue vraiment violente elle-même. Elle dit que quand elle prend la drogue, elle peut prendre une bouteille, taper sur la tête de quelqu'un et puis passer. Elle-même, elle a dû quitter son village, la mauvaise compagnie, les problèmes de famille et tout qui les plonge dans ça. Et finalement, elle se retrouve dans la prostitution et puis l'école devient en pointillé.
Maïmouna Traoré, quels sont les autres sujets que vous aimez traiter dans votre travail?
Je traite des questions de santé. J'ai fait un grand reportage sur l'albinisme. Voilà, question d'assainissement aussi, la ville de Ouagadougou, l'insalubrité dans la ville de Ouagadougou, la gestion des boues de vidange, l'eau, l'assainissement.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît en particulier dans le reportage vidéo?
J'ai choisi ce métier parce que d'abord j'ai fait une formation en lettres modernes, formation de littéraire, et j'ai trouvé que c'était un créneau pour moi de m'exprimer. Et ce qui me plaît vraiment dans ça, dans mes reportages, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à donner mon point de vue, j'arrive à vraiment contribuer au développement de mon pays. En tout cas, c'est ce qui me plaît dans ça, c'est un créneau pour moi de m'exprimer et de donner mon point de vue.
Maïmouna Traoré, vous êtes donc deux femmes à avoir remporté ce prix, le prix Marie-Soleil Frère. Hein. Il y a aussi Mariam Ouedraogo qui a remporté notamment la catégorie presse écrite et le prix lui-même. Et en 2021, vous l'avez toutes les deux remporté. Alors qu'est-ce que cela vous inspire finalement, que ce soit encore deux femmes qui remportent ces fameux prix qui concernent la presse?
Je crois que c'est un honneur, c'est un encouragement. Deux femmes qui remportent le prix, cela veut dire quelque part que nous persévérons. Nous persévérons dans ce que nous faisons. On a vraiment compris le message que le centre de presse Nobel-Zongo a voulu faire passer, amener les femmes à vraiment se donner dans ce métier-là, à produire des œuvres, vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, à vraiment arriver à s'exprimer et à faire de bons reportages. Parce que c'est l'occasion pour nous d'être jugés par des aînés, donc ça nous permet d'aller de l'avant.
Maïmouna Traoré, je rappelle que vous êtes journaliste burkinabé, vous travaillez à la RTB. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, d'avoir été avec nous pour Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Merci.
Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
En fait.